Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à chacune et chacun. Heureux de se retrouver ensemble.
Amen.
Ça me fait plaisir de revenir à Redon, moi. Et aussi à mon épouse. Hein? Voilà. Nous allons ouvrir un passage. Je voudrais simplement en préambule vous dire que le message que vous allez entendre ce matin, il n'était pas prévu. Il faut savoir changer son fusil d'épaule. C'est un maxime, hein? Voilà. C'est ce que l'on dit. Alors j'avais préparé autre chose et au dernier moment, le Seigneur m'a dit, écoute, va changer. Alors comment fait-on pour changer de fusil d'épaule? C'est ça la question, hein? On compte sur le Seigneur, tout simplement. Voilà. Alors je pense que s'il y a eu un changement que le Seigneur m'a demandé d'opérer, c'est parce qu'il y a des besoins que lui connaît dans l'Église. Parce que peut-être avez-vous prié cette semaine en disant « Seigneur, parle-moi dimanche prochain », indépendamment du ministère, du prédicateur. Alors, je pense que nous aussi, nous avons prié de notre côté. Avec mon épouse, on a dit « On va à Redon dimanche, qu'est-ce qu'il faut dire ?» Et ça, c'est vraiment le souci d'un prédicateur, franchement, hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, il y a toujours quelque chose à dire. Je peux vous faire des lectures pendant une demi-heure, un quart d'heure. Ça, c'est sûr, c'est la parole de Dieu. Hein. Mais il y a des choses beaucoup plus précises qui correspondent aux besoins, les attentes du peuple de Dieu qui, quelque part, eh bien, a besoin d'entendre un message, qu'il soit de guérison, de délivrance, de soulagement, qui, véritablement, eh bien, un message qui fortifie votre foi, parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça, il faut le dire. Hein. Et c'est sur ce sujet que nous allons eh bien, débattre quelques instants. Enfin, débattre, c'est moi qui vais parler, en tous les cas. Hein. Vous pourrez toujours me voir après. Alors, le thème de notre message, c'est « si », c'est « quand Jésus frappe à ma porte ». Ça vous est arrivé que vous ayez entendu à un moment ou à un autre le Seigneur frapper à votre porte? Alors je ne parle pas de n'importe quelle porte. Plus la maison est grande, plus il y a de portes. Mais une chose qui est certaine, c'est la porte de notre cœur. Ça, c'est important, c'est essentiel. Alors, si Jésus frappe à ma porte, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Et dans Apocalypse, si vous voulez suivre avec moi, je vais lire un premier texte, ce sera très simple, hein? C'est très simple, vous le connaissez. Et il est dit ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte. » C'est Jésus qui parle. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, « j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il y a 3-4 mots qui vont nous interpeller et nous en ajouterons d'autres naturellement. Jésus nous dit « je me tiens », donc il est prêt. C'est nous qui ne sommes pas toujours prêts, finalement, à le recevoir, à l'entendre. Et la porte dont il est question, imaginons une maison naturellement, mais imaginons ce que je viens de dire, hein. Eh bien, la porte de nos cœurs, la porte de nos consciences et la porte de notre esprit. Parce que sans qu'on s'en aperçoive, on a peut-être fermé porte et volet. Hein. C'est possible, tout en pensant que tout est ouvert pour le Seigneur. On l'entend dans les louanges, on l'entend dans les prières. « Seigneur, je suis ouvert à toi, je suis prêt à ceci, je suis prêt à, là, à cela. » Et peut-être que s'il y avait une liaison un petit peu plus claire, un peu plus limpide, le Seigneur nous dirait, « Non, tu n'es pas prêt. » parce que ce n'est pas encore le temps. Pour moi, c'est toujours le temps. Mais pour toi, ce n'est pas le temps parce que tu es parti ailleurs. Parce que tu es tellement engoncé dans tes tracas, dans tes soucis, dans tes préoccupations, dans, finalement, eh bien, tes angoisses et tout le reste. Tu ne peux pas m'entendre parce que les choses que j'ai à te dire, et tu sembles pressé, mais tu ne l'es pas pressé. Parce que moi, je suis là, je frappe à la porte, et que fait-on à ce moment-là ? Préambule. Il y a des mots-clés que l'on peut expliquer. Je viens, Jésus nous parle de cette attente. Lui, il attend. Il est prêt à... Il ne change pas, il est le même aujourd'hui éternellement. Il est prêt à faire, finalement, tout ce qui, dans son possible, mais tout est possible à Dieu, de toute façon. Mais c'est nous, récepteurs, où nous ne sommes pas toujours prêts. Alors il se signale, je frappe, c'est moi. Alors, n'allez pas entendre des cloches, hein, comme il y en a des nouvelles là, sur Notre-Dame de Paris, hein, parce que là, c'est autre chose. Alors, il se tient, il est prêt, et il signale sa présence. Oui, tu ne te trompes pas, je suis là. Vous savez ce que nous sommes ? On est peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas compté, hein, ça n'a pas d'importance. Mais il y a quelqu'un qui est au milieu de nous ce matin.
Amen.
Il est Jésus. C'est Jésus, pardon. Ouais, c'est Jésus, il est là. Et il se signale. Quelquefois, nous entendons toutes sortes de réflexions. Je cherche Dieu, mais vous n'allez pas le chercher. Je recherche Dieu, mais vous n'allez pas le rechercher. Il est là à chaque instant. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, jour et nuit. Donc il n'y a pas de problème. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Alors il se présente, il dit, si quelqu'un entend, voilà, la première étape, elle est faite. Je viens, je frappe, mais si quelqu'un entend... Parce que quelqu'un entend, certainement supposer que Dieu n'est pas sourd. Hein. Entendre. Et nous, nous sommes quelquefois sourds. Par l'encombrement dont j'ai cité tout à l'heure quelques éléments. Hein. On est sourd. Alors, si quelqu'un entend, supposer, si Jésus parle comme ça, c'est très simple, hein, c'est basique ce matin. Hein. Mais c'est ça ce que nous avons besoin, ce que vous avez besoin. Supposez que de l'autre côté, derrière la porte, dans la maison, il y a un individu. Il y a un homme, une femme, il peut y avoir un enfant, il peut y avoir un vieillard, quelles que soient ses conditions de vie, peu importe. Il y a un individu qui peut entendre. Parce que, permettez-moi que Jésus ne frappe pas discrètement en disant « s'il ouvre, c'est bien, s'il ouvre pas, c'est... » Non. Il fait les choses de telle manière que ce soit suffisamment audible. Et oui, c'est ainsi qu'il nous parle. Et cette audition, elle peut être manifestée par une voix, au niveau de nous-mêmes, hein, au niveau de notre conscience, au niveau d'une pensée, une simple pensée. Mais cette audition, elle peut se passer à travers une épreuve. Elle peut passer à travers, finalement, une période difficile de notre vie. Il nous parle, alors qu'il n'y a pas un bruit. Toutes sortes de choses, une maladie. Parce que peut-être c'est la condition pour laquelle il veut se faire entendre, mais où là nous allons peut-être être plus attentifs parce qu'il y a de la peine et de la souffrance. Alors, il y a donc quelqu'un qui peut entendre, et celui qui, finalement, est interpellé, peut répondre oui ou peut répondre non, parce que nous avons la liberté. Ça, c'est une valeur cardinale dans l'Évangile, c'est que Dieu ne nous force jamais. On l'a souvent présenté comme un dictateur, comme là, une personnalité à laquelle on ne peut pas résister, voilà. Hein. Alors, on peut se perdre dans le mysticisme et dans toutes sortes de choses et on raconte n'importe quoi. Mais nous pouvons, nous, répondre oui ou répondre non. Et il est question à ce moment-là, hein, si quelqu'un entend ma voix, c'est pas n'importe quelle voix, c'est pas n'importe quelle situation, c'est pas n'importe qui naturellement. Il entend ma voix parce que cette voix de Jésus, elle est reconnaissable, à travers finalement sa parole. Reconnaissable, ça c'est un mot qui est reconnaissable entre tous. Ça, c'est la première étape. Et il va nous faire des propositions à ce moment-là. Ciblées. Je pourrais dire au millimètre. Il ne se trompe jamais. Hein. Alors nous, nous prenons finalement des mesures par rapport à ce que Dieu nous dit par sa voix. Nous en grignotons quelques petits morceaux, ou alors nous allons augmenter, alors que finalement il ne nous l'a pas dit. Donc, proposition de Christ, à ouvrir cette porte pour nous offrir, eh bien tout simplement, une bénédiction. N'allez pas vous imaginer que Dieu est toujours, comme nous l'avons appris dans nos religions, que Dieu est un Dieu qui sanctionne, un Dieu qui punit, un Dieu qui revient toujours sur nos fautes. Non, il ne revient pas sur nos fautes, il ne revient pas sur nos erreurs, il ne revient pas sur nos incompréhensions, nos retards ou nos avancées, peu importe. Non, recevoir une bénédiction, parce qu'il est venu pour cela. Nous allons tout à l'heure prendre la Sainte Cène. Je voudrais vous le rappeler au passage, comme ça, que la Sainte Cène, c'est une coupe et un pain de bénédiction. Ouais. Alors, il suffit tout simplement de venir et de lui dire, « Eh bien, Seigneur, je te glorifie parce que tu es merveilleux, tu as donné ta vie pour moi. » Alors, à ce moment-là, ça libère un peu les choses. Ne prenez pas, finalement, eh bien là, la Sainte Cène comme une malédiction. Alors, on l'a prêché, ça. On a fait peur aux gens, on a fait peur aux chrétiens. Est-ce que, finalement, le résultat de tout ça, c'est que les gens sont plus imprégnés de crainte que, finalement, eh bien, un talent pour aller vers Jésus. Ça, c'est sûr, de confiance. Donc, bénédiction pour recevoir du bien. C'est une grâce que nous pouvons saisir par la foi. C'est la pensée qu'il veut, finalement, nous dire que nous avons devant nous un nouvel avenir, alors que peut-être nous avons gâché des années et des mois. Un nouvel avenir. Il faut y croire aussi à ça. Un nouveau départ, lorsque un chrétien trébuche, et que là, Jésus est venu lui parler, il frappe à la porte pour dire « Tu te souviens de ce que tu étais ? Tu te souviens de ta vie chrétienne ? Tu te souviens quand tu étais enfant, tu as appris finalement la Bible, etc. etc. Tu as passé des années à dissiper ces années, et aujourd'hui tu reviens. Alors moi, je voudrais te dire qu'il y a un nouveau départ. Il y a toujours, excusez-moi le mot, je ne l'aime pas, mais une seconde chance, même une troisième chance, et même s'il fallait, eh bien, autant de chances que nous avons besoin de recevoir. Un redépart, un renouveau, pour nous donner une nouvelle identité. J'étais comme ça, maintenant je suis. Et on peut faire des expériences, finalement, de renouvellement. On se convertit une fois. On est une fois, on est de nouveau une fois, mais nous avons quelquefois besoin de revenir, finalement, au Seigneur pour qu'il nous donne une prolongation. C'est revivre, c'est un relèvement. Je pense particulièrement à la guérison divine. Oui, on a fait des expériences avec le Seigneur, merveilleuses, formidables. C'est pour ça qu'on peut en parler, parce qu'on sait de quoi on parle, naturellement. Et les délivrances et la guérison divine, peut-être que ce matin, eh bien, moi c'est ma pensée, que le Seigneur voudrait que vous ouvriez la porte comme vous ne l'avez jamais fait. Que vous lui répondiez et il va vous donner un message, il va vous donner, peut-être ça va passer par une consolation, ça va vous donner, peut-être il va vous dire que ne vous méprisez pas. Parce que le Seigneur ne méprise personne et qu'à raison de cela, vous êtes toujours en train de ressasser les erreurs que vous avez faites en disant « Eh bien, moi, Dieu ne peut pas me bénir parce que j'ai fait telle et telle chose. » Non. Dieu va vous parler pour vous dire « Eh bien. » Et puis quelquefois, la guérison, pas la guérison, mais la maladie, elle n'a rien à voir avec finalement votre vie de péché et tout ça. Parce que Jésus est mort à la croix, tout est accompli. Amen. Il y a une autre promesse que j'aimerais ajouter à celle-ci, là. Apocalypse, toujours chapitre 3 et au verset 8. Il est question de cette parole que vous connaissez. Alors, il s'agit d'une église qui s'appelle Philadelphie. Et il est question, « Voici, tu as peu de puissance. » C'est vrai que quelquefois, nous nous sentons si faibles, si inutiles, incapables de ceci et cela. « Alors, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. » Ça, c'est le fond de notre cœur. Il y a toujours un reste. Hein, et un reste qui peut, comme une petite graine, comme une plante après l'hiver qui repousse au printemps, eh bien, ça peut être ça aussi. Hein. que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi, écoutez bien, soyez attentifs, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et puis dans l'inverse aussi, hein. J'ai mis devant toi une porte ouverte, ça c'est important, parce que pour nous on reste toujours sur la question qu'elle est ouverte cette porte. Le Seigneur est toujours disposé à nous laisser une porte ouverte. Ouais. Pour tous les besoins que nous ayons. Que ce soit des besoins physiques, des besoins matériels, que ce soit des besoins de nos âmes, des besoins psychologiques, des besoins familiaux, des besoins peut-être de travail, des besoins de toutes sortes de choses, et nos crises spirituelles aussi. Il veut les régler, hein. Voilà, parce que la porte est ouverte. Tout est ouverte. Tout est grand ouvert. J'ai ouvert une porte, finalement, eh bien, que personne ne pourra fermer. Sinon vous-même, sinon chacun d'entre nous, par nos incrédulités, nos doutes, nos hésitations, nos murmures. Une porte qui est toujours ouverte. Alors, c'est intéressant de prendre en considération, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est un appel que le Seigneur nous adresse pour que nous ayons ce renforcement de certitude, de confiance, d'assurance. Jésus dit bien qu'il est la porte personnifiée. Parce que là, ce n'est plus une question de parole, c'est une question de personne. Jésus nous dit, dans cette fameuse parabole, finalement, du bon berger, « Je suis le bon berger et je suis la porte des brebis. » Est-ce que nous sommes véritablement à nous considérer comme les enfants de Dieu? Pas brebis, si vous voulez, mais enfants de Dieu. Parce que vous êtes enfants de Dieu, vous avez des droits que le monde n'a pas. Bien sûr, et pour cause. Et pour cause, parce que finalement, le monde ne se préoccupe pas de Dieu. Il est peut-être en errance dans des religions, comment pourrait-on dire, fallacieuses. Mais nous sommes là ce matin, nous sommes enfants de Dieu. Pour ceux qui ne le sont pas, nous vous invitons finalement à rentrer dans la communion avec le Seigneur et vous devez devenir des enfants de Dieu. Nés de nouveau, une porte personnifiée. J'aimerais donner un petit peu de sens à notre méditation ce matin par la suite. Je voudrais vous présenter une illustration commentée, enfin, une image si vous voulez. Et cette image, je ne l'ai pas cherchée ailleurs, je ne l'ai pas cherchée autrement. Je l'ai cherchée dans la parole de Dieu. Illustration, vous allez le reconnaître. Le livre des Actes nous parle d'un mendiant, de plusieurs, hein. Un mendiant assis à la belle porte du temple. Alors on va le lire. On va lire ça parce que c'est quand même assez intéressant. On va prendre dans le livre des Actes cette parole. Au chapitre 3, au verset 2. Alors, Actes, chapitre 3, verset 2. On va lire le texte, on va prendre le temps de le lire pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Alors, Pierre et Jean... Alors Jésus était ressuscité, il était mort et ressuscité à ce moment-là. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Qui dit prière dit foi, dit confiance, naturellement, on ne l'oublie pas. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, Pierre, voyant, et Jean, les voyants, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ! » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses chevilles, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique de Salomon. Alors, vous le connaissez ce texte, vous l'avez lu et relu, hein, ça c'est certainement. Mais il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes à faire ressortir. Pour nos guérisons, pour notre délivrance, pour notre affranchissement du mal. Affranchissement du mal, j'ai bien dit. Un homme déshérité, et on comprend sa condition sociale. Assis, nous est-il dit, à la porte du temple. Le Seigneur frappe à la porte et il te dit « Mets-toi debout maintenant ». Il ne dit pas seulement là, mais il le dit pour vous ce matin. « Mets-toi debout ». Parce que pour l'instant, tu penses être debout, mais tu as du mal. La pesanteur de ton corps te ramène vers la terre. Ouais, tu es assis. Et quand on est assis, c'est pour se défatiguer. Mais est-ce que c'est véritablement quelque chose d'efficace, hein ? Il y a beaucoup de choses que l'on fait, dans lesquelles on tourne, et qui ne sont pas efficaces du tout. On s'imagine, tout simplement. Alors, c'est un homme aussi qui est blasé d'attendre. C'est pour ça qu'il ne veut pas faire l'effort de se mettre debout, mais de toute façon, il ne peut pas. Alors, il pourrait essayer de s'agripper d'une manière ou d'une autre, il n'y arrivera pas. Il est déshérité, il est blasé d'attendre, parce que c'est un infirme de naissance. Il n'a jamais vu, finalement, autre chose qu'à l'horizontale et près du sol. Ah oui, c'est une signification tout ça, hein. Quelle condition misérable. Alors on parle d'aveugles dans la Bible, on parle de boiteux comme lui, on parle de gens qui sont muets, toutes sortes de situations, ce sont des infirmités tout ça. Et souvent, quelquefois, il est bien précisé que c'est des maladies de naissance. C'est un mendiant, pour cause, infirme, parce qu'il ne peut pas travailler. Peut-être qu'il avait envisagé peut-être une autre vie, mais c'est pas comme ça. Parce que ses jambes ne le tiennent pas. Il ne peut pas se tenir, finalement. On pourrait peut-être qualifier d'une existence dégradée. Si peut-être chacun d'entre nous, est-ce que nous pensons que véritablement notre existence n'est pas celle à laquelle nous avons rêvé, que nous avons pensé, celle que nous avons envisagée? Il y a des gens qui ne sont pas infirmes de naissance, mais qui vont le devenir par un accident, par une maladie, par toutes sortes de choses. Et ils vont connaître ce que c'est que la dégradation d'une existence qui est brisée. Hein. C'est terrible, hein. Moi, je pense aux accidents, vous savez, de la route, particulièrement les motos. Je vais vous dire pourquoi, parce que quelquefois, il y a des gens qui sont très, très corrects et qui roulent normalement. Mais il y en a d'autres, on se dit, mais c'est complètement malade. Ils vont finir dans le cimetière. Hein. Moi, je pense souvent qu'ils vont finir. Et quand on voit le nombre d'accidentés, et particulièrement sur la moto, je me dis, mais c'est fou. Hein. Il m'est arrivé avec Myriam d'aller dans un centre à Angers. On a un gros centre pour les paralysés. Et de voir des jeunes gens de 20 ans, de 30 ans, plus vieux hein, peut-être, hein, et qui sont là. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ils sont sur une table plate, ils n'ont plus ni bras, ni jambes, et ils vont pouvoir, alors là, ils vont pouvoir regarder le ciel en permanence et le plafond. Hein. Je me dis, mais quel gâchis! Quelle misère de vivre comme ça et tout ça pour les sensations de la vitesse. Une simple infraction, et puis voilà, votre vie est brisée. C'est terrible. Hein. Ça fait de la peine hein, de voir cette misère de jeunes gens qui sont là sur un lit, même pas sur un lit, ils sont sur une table. Alors peut-être ils ont tout l'équipement naturellement pour se servir, s'ils ont encore des bras. Hein. C'est terrible. Alors, existence dégradée. Nous avons besoin d'avoir une existence restaurée. Et normalement, elle est là. Cette restauration, puisque nous avons tout ce qui contribue à la vie physique, à la vie et au bonheur de pouvoir marcher, de pouvoir manger, de pouvoir se servir, etc., etc. Mais il y a là une dégradation, naturellement, qui a réduit cet homme à la mendicité dépendant de la charité publique. On l'a lu, hein, dépendant des autres, et peut-être de d'autres qui, nous, le texte nous le rapporte. Eh bien, était porté tous les matins et le soir, venait le chercher, à la belle porte du temple. Oui, dépendant des autres. Dépendant, finalement, eh bien, d'être là, parce que c'était son lieu dans lequel il pouvait, finalement, eh bien, avoir sa subsistance. Alors, il y avait des jours avec et des jours sans. Quelquefois, il rentrait chez lui, il n'avait même pas une petite pièce. Il n'avait rien du tout. Les jours de fête, en Israël, au temple de Jérusalem, ben, il revenait avec une bonne recette. Parce que les gens ont été touchés peut-être par certaines choses. Et oui, on le portait chaque jour, dépendant finalement des autres. Nous avons besoin de retenir cela. Il était déposé chaque matin à la belle porte du temple. Ah. Alors vous savez que nous avons des belles cathédrales, des basiliques, etc. Ou sur le fronton, ou sur le parvis, vous avez des choses. Alors maintenant, on leur met de la lumière, vous savez, ciné-sénie, non ? Quelque chose comme ça, vous savez, avec des lumières et tout ça. Alors elles sont belles, les façades de nos... Hein, ça se fait à Lyon, ça se fait à Amiens, par exemple. Hein, et puis là, ça va se faire bientôt, certainement, recolorisation, finalement, eh bien, des frontons de nos... Et là, elle était belle. Elle était belle, ça... Il y avait un homme qui était un roi qui s'appelait Hérode, ce n'était pas le meilleur. Hein. Il avait refait faire le temple de Jérusalem qui avait été finalement démoli, massacré, tout ce que l'on veut. Alors on appelait cette porte la Belle. Et cet homme était assis à l'extérieur. Avait-il le droit, lui, dans cette situation de mendicité, de rentrer à l'intérieur ? Il était assis à l'extérieur, et cet extérieur symbolisait, on peut le dire aujourd'hui si on veut prendre un petit peu d'imagination, il symbolisait le monde et ses fausses espérances, dehors, avec les moyens que le monde peut nous donner. Et on en a, hein. Ne nous plaignons pas d'être finalement dans un pays où on peut être soigné. Hein. Moi je le dis à chaque fois, parce que franchement, brailler, grogner, hein, vociférer, et puis taper sur les autres, je me dis, on ne sait pas ce qu'on en a. Pourvu que ça dure. Alors, c'était véritablement le symbole des fausses espérances du monde qui retiennent le malheureux dans la faiblesse de l'infirmité. Ou alors, il y avait le contraire. Derrière la porte du temple, il y avait là un lieu. Un beau lieu, si on peut le dire. C'était le lieu saint. Il y avait la porte, il y avait l'extérieur, le pavis, si vous voulez, et puis il y avait l'intérieur. Et dans ce lieu saint, il y avait quelque chose de particulier, là où la parole de Dieu, là où Dieu parle, là où Dieu parlait, parole libératrice entendue, elle est entendue, des fois elle est à l'intérieur, et qui donne la foi pour croire que tout est encore possible. Mes amis, ce matin, vous avez le trésor des trésors, finalement dans vos mains.
Amen.
Oui, c'est pas le prédicateur, il est rien dans cette affaire. Mais l'utilisation, votre compréhension, votre accueil, poussez la porte pour ouvrir le Saint-Livre, pour ouvrir la parole de Dieu, parce que c'est une richesse, c'est véritablement la perle de grand prix, on peut le dire. C'est tout ce que Dieu a fait de merveilleux et de formidable. Donc, les deux options, la porte, l'extérieur, là où l'image du monde, et puis l'intérieur, où là on peut recevoir la parole de Dieu. Je me dis, mais comment peuvent vivre les gens qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui ? Moi je me pose la question, comment peuvent-ils vivre ? Bon, ils se raccrochent peut-être à une religion, pseudo-religion, pseudo-croyance, avec toutes les superstitions qu'il peut y avoir. Bon, d'accord. Ce n'est pas à moi de juger. Mais par contre, depuis que le Seigneur est venu, il nous a donné sa parole. Je n'irai pas dire « Lisez la parole de Dieu parce que c'est un devoir. Lisez la parole de Dieu parce que c'est un amour de la lire. » C'est plus un devoir, c'est plus une obligation. Moi, j'ai jamais été pasteur pour dire « Lisez la parole de Dieu » parce que, vous savez, ça fait trembler les gens. « Ah, j'ai pas eu le temps de lire la parole, je suis culpabilisé. » Eh bien, si vous ne la lisez pas aujourd'hui, vous la lirez demain. Et si vous n'avez pas faim aujourd'hui, Dieu, priez donc que Dieu vous donne de l'appétence, de, finalement, envie de lire sa parole. Et vous allez voir, ça va changer quelque chose. Là, vous allez rentrer, finalement, dans le dynamisme de la vie spirituelle. Alors, les faiblesses qui rendent infirmes. Bah oui, nos faiblesses, c'est le contraire de la force, hein, bien sûr, hein, ça nous rend infirmes. Alors il y a celles qui sont physiques, comme lui, comme cet homme, probablement. Il avait des faiblesses dans ses chevilles, parce qu'à un moment donné, dans la suite, comme nous l'avons lu, elles sont devenues fermes, donc elles étaient flasques. Et nous avons des faiblesses qui nous rendent, on vivote. C'est une vie de médiocrité, on ne peut pas dire qu'on est heureux, on n'est pas malheureux non plus, mais on se contente de ce que l'on a. C'est bien dommage, parce qu'on peut avoir plus, on peut avoir tout. Et il y a naturellement les faiblesses morales. Et ça, ça rentre en jeu finalement dans nos errances à la fois physiques et puis aussi sur le plan moral, les faiblesses morales. Que sont les mauvaises habitudes? On a pris des mauvaises habitudes qui nous bloquent. on fait ça parce que bon, c'est comme ça, et puis on a toujours fonctionné comme ça, et puis ça nous fait peur d'aller vers le côté d'aventure. Ah oui, quelquefois certains iront dire, mais oui, mais si je fais comme ça, je pêche. Mais vous pêchez contre qui? Vous pêchez contre vous, c'est tout. Et vous vous empêchez d'aller plus loin, tout simplement. Les attirances sensuelles, alors ça c'est le monde, hein. Je ne vais pas faire de commentaires. Les réactions violentes que l'on peut avoir et le mauvais caractère chronique. Le Seigneur nous dit, mais si tu veux, vraiment, il faut que tu changes de caractère. Moi je vais t'aider à changer de caractère. Je ne te juge pas pour ton caractère parce que tu es dur, tu es difficile, finalement, voilà, de la manière dont tu parles, la manière dont tu te comportes. Mais le Seigneur est venu aussi nous délivrer, finalement, de ces faiblesses morales. Parlons également de tout cet état de négativité. « J'y arriverai jamais. Seigneur ne veut pas me guérir. Et puis, je ne fais pas ce qu'il faut. » Vous savez ce qu'il faut faire pour véritablement avoir la grâce de Dieu? Il faut lui faire confiance, c'est tout. Et ça s'appelle la foi. « Augmente ma foi, Seigneur. Donne-moi plus de foi, Seigneur. » Il ne faut pas avoir peur de lui demander. Hein. Moi, je demande tous les jours, vraiment, enfin, ce n'est pas un secret, et c'est peut-être normal pour un pasteur, mais je demande, ben, c'est ma vie personnelle, hein. Mais je dis, Seigneur, augmente-moi, donne-moi plus de confiance en toi. Ah ouais. Là, je peux vous dire qu'il y a un combat qui se ferait. C'est quand vous êtes à la porte et que vous voulez vraiment rentrer à l'intérieur, ben, je peux vous dire qu'il y en a un qui va vous décourager, finalement, d'aller plus loin. On se bat contre soi-même, contre la chair, mais on se bat aussi contre un ennemi. Hein. Et ça, c'est sûr. Et puis, il a de l'expérience. Hein, depuis Jardin d'Éden, il sait comment faire. Hein. Nos états de dépression, nos états tout simplement de tristesse, nos peurs, nos angoisses. Cette volonté, parce qu'il y a le problème de la volonté dans notre âme. Il y a l'intelligence, il y a toutes sortes de choses, mais il y a la volonté aussi. Une volonté qui est annihilée, sans pouvoir réagir, car Jésus nous a ouvert une porte et au lieu de franchir le seuil de cette porte, nous restons sur place, oisifs. Nous avons une faible foi. Où nous remettons en doute les promesses de Dieu. Où nous remettons en cause, finalement, notre propre vie, mais pas dans le bon sens. Et voilà, on se balade d'un côté. Même si nous sommes proches de l'intérieur, il y a juste une porte qui ferme et qui est fermée. Hein ? Eh bien, si nous sommes si proches de l'intérieur du temple, sans oser y pénétrer, maintenant il faut avancer. Et ce n'est pas pour rien que le livre, finalement, eh bien, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, eh bien, nous donne le cas de quelqu'un qui ne pouvait plus marcher, et il va falloir qu'il marche maintenant. Mais il va y avoir une expérience entre les deux. Il n'en est pas capable. Lui-même est engoncé, finalement, dans son oisiveté, qui n'est pas volontaire, hein, mais qui est tout simplement un état de vie. Et il va falloir qu'il marche. Dites à un aveugle, vois. Ben, il va répondre, je ne peux pas voir, je suis aveugle. Eh bien, quelqu'un, dit à quelqu'un qui est complètement paralysé de ses jambes, eh bien, marche, il ne peut pas non plus. Eh bien, c'est justement ce non plus là, c'est là cette impossibilité où Dieu nous dit, allez, arrête à l'extérieur, maintenant va à l'intérieur, tu marches et tu y vas. Et c'est une question de volonté. Volonté de croire, volonté de se faire aider. Volonté de faire confiance à Dieu. Mes amis, si j'ose, même si j'en ai pas vu beaucoup ce matin, laissez vos béquilles. Oui. Oui. Vous savez, ces genres de prothèses là que l'on se met de tous les côtés parce qu'on a peur de tomber, parce qu'on a peur. Mais la peur, c'est elle qui est là. La méchante dans cette affaire. Les angoisses. Seigneur, guéris-moi de mes peurs, de mes préjugés, de toutes sortes de choses dont on nous a finalement, eh bien, fait grandir depuis notre naissance, c'est possible. Hein, voilà. Cherchez la délivrance. laissez vos béquilles. Cherchez la délivrance, mais avant, guérissez vos âmes. Oui, nous avons besoin, guéris mon âme, Seigneur. Parce que si mes pieds ne marchent pas, si mes yeux ne marchent pas, si mes oreilles ne marchent pas, si je ne peux pas être comme tout le monde, c'est parce que j'ai besoin d'être guéri à l'intérieur. Le Seigneur n'est pas venu seulement sauver nos corps, il est venu sauver nos âmes. Et vous savez, quand Jésus, à la fin, quand il sera sur la croix, contrairement aux religions, religions chrétiennes, pseudo et tout ce que voudrait, Jésus n'a pas dit « je te remets mon âme, mais je te remets mon esprit ». Là, il y a quelque chose à comprendre. L'essentiel, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Nous avons un esprit. Dieu nous a donné un nouvel état d'esprit. Il nous a donné une nouvelle naissance. Et c'est là l'essentiel. Et nous vivrons dans le ciel à jamais par l'esprit. On aura un corps glorifié. Je ne peux pas vous le dire parce que moi, je n'y suis pas passé encore. Hein. Si jamais ça m'arrive, je reviendrai et puis je vous le dirai. Oui, oui. Alors c'est ça, justement. La question, elle est là. Ouais. Cherchez la délivrance, priez pour que Dieu vous délivre, mais vous l'avez déjà fait, vous le faites tous les jours. Seigneur, délivre-moi ceci et cela. Et nous avons multiplié des paroles et nous sommes tombés peut-être dans une ornière où Jésus nous dit, ne multipliez pas, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, parce que ça ne sert à rien, comme font les païens. Non, on arrête ça. On demande avec foi, et au lieu de demander tous les jours, tous les mois et toutes les années la même chose, eh bien bénissez-le comme si vous aviez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon, je suis en forme. Hein. Et vous avez remarqué aujourd'hui, je n'ai pas pris mon siège. Vous l'avez remarqué ça, hein? Et quand je vais rentrer à Saint-Nazaire tout à l'heure, je me mets debout pour conduire ma voiture. Bon, alors c'est Myriam qui ne va pas être trop à l'aise. J'ai déjà fait un trou dans le toit de la voiture pour que je puisse avoir un peu d'air. Je vais bientôt terminer. Il est question de ceux qui le transportent, qui viennent, qui vont, etc., etc., de ceux qui lui donnent un peu d'argent. Mais je voudrais vous dire une chose, parce que c'est une vision humaine et terrestre. Hein. La charité des autres ne va pas vous remettre sur pied. Elle peut vous aider. Moi, je bénis d'avoir trouvé dans mes histoires de santé, hein, qui me suivent depuis deux décennies, des gens, et ça, on avait prié pour ça, qu'ils me donnent, soit des bons chirurgiens, des bons médecins, etc., etc. Puis de ceux qui, quand même, bon, connaissent, mais je leur fais confiance. Mais avant de faire confiance aux hommes, avant de faire confiance aux hommes, je fais confiance à Dieu. Quand j'ai passé un petit peu ces périodes ténébreuses, hein, il y a quelque temps, et on en avait parlé avec... Je lui dis, moi, les hommes soignent, mais moi, je me confie dans la thérapie du Saint-Esprit. Amen. Parce que ça reviendra vers les hommes, cette thérapie. Parce que Dieu va diriger les hommes pour bien faire, etc., etc. Oui, le protocole du Saint-Esprit, c'est l'essentiel. Et ça m'a réjoui d'avoir cette pensée qui me venait dans mon cœur. Que la porte a été... Le Seigneur a frappé à ma porte. Et à ce moment-là, il m'a dit, bien écoute, voilà, faut pas mépriser les médecins. Excusez-moi. Moi, j'y suis pensé, j'ai connu beaucoup de chrétiens qui ne sont pas passés par la guérison divine et ô combien nous tenons la guérison divine comme quelque chose, finalement, de grandiose et de magnifique. Hein. On a tellement entendu de témoignages de ça. Mais par contre... Le Seigneur nous fait passer par les hommes, tout simplement. Les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Ça, il faut le savoir. Hein. Alors, à la belle porte, avant de la refermer, non, on va l'ouvrir là maintenant. La belle porte, même si la porte est splendide, puisqu'elle est qualifiée de belle, eh oui, mais c'est le lieu de l'humanité, et c'est un lieu social pour cet homme. Eh oui, voilà. Et il ne pouvait la voir que belle, parce que finalement, eh bien, les gens lui tendaient la main pour l'aider. Et que nous avons perdu l'espoir, ayez ce besoin, demandez-le à Dieu, ayez ce besoin de croire encore que l'intervention de Dieu est toujours possible, et au lieu de ruminer nos doutes, au lieu de ruminer nos impatiences, proclamez la puissance tout simplement, est la fidélité de Dieu. C'est ce que je disais, arrêtez de prier. C'est rare quand un pasteur le dit. Mais au lieu de prier et de répéter la même chose, et sans piternelle demande, eh bien, bénissez le Seigneur comme si vous l'aviez reçu. Et vous allez le recevoir à un moment ou à un autre. Persévérez. Donnez le coup. C'est ça ce qui est important. Et puis, il y a un miracle qui va se passer là. Il y a un miracle qui va se passer. Il porte le nom d'un homme. Il s'appelle Pierre. Eh oui, je vous disais qu'on a besoin des hommes, mais les hommes font ce qu'ils peuvent faire, mais ça va beaucoup plus loin. Alors on va lire un petit peu ce qui s'est passé pour Pierre. Le verset 3 nous dit ceci, on va le retrouver. « Cet homme, ce mendiant, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose, des espèces sonnantes et trébuchantes. Hein. Voilà. Il avait toujours fait que cela dans sa vie. Alors Pierre lui dit, j'ai un trésor. Ouais. Je l'ai, mais pas de la manière dont tu penses. Et vous savez, Dieu peut nous prendre au mot quelquefois, on attend quelque chose, on s'est imaginé quelque chose, alors que ce n'est pas comme ça que Dieu va s'y prendre. C'est pour ça qu'il faut être souple. Seigneur, quand tu veux, où tu veux, et comme tu veux. Alors là, je peux vous dire que ça change les choses. Seigneur, tu vas faire comme ça, parce que j'ai pensé que c'était comme ça que tu devais faire. Oh là, là, on prend des risques. Alors il dira, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et moi, j'ajouterai, je te le donne de la part de Dieu. De notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le miracle se produit. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, de molles, d'infirmes qu'elles étaient auparavant. Et il sauta, finalement, et il se mit debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il n'était peut-être jamais rentré malade. Il n'avait peut-être pas le droit, je ne sais pas. Hein. Mais toujours est-il que là, il est rentré avec véritablement ces hommes de Dieu qui ont contribué à lui redonner la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà un bon coup de main. Vous cherchez des coups de main? Je n'ai pas dit des coups de poing. Mais j'ai dit des coups de main, parce que c'est quand même le poing, c'est la main. Hein. Hein, on peut servir du pied aussi, des pieds, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, attention à ce que je dis. Hein. Un coup de main rempli de compassion et un coup de main providentiel venant de la part de Dieu. Pierre se pencha, il lui prit la main et le fit lever. C'est le petit aide que nous avons besoin, que l'on peut rencontrer sur les chemins de Dieu, sur finalement les routes de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut, c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Il y a bien quelqu'un qui nous a parlé de Jésus. Il y a bien quelqu'un qui nous a offert une Bible. Il y a bien quelqu'un qui est venu nous dire peut-être une parole dont nous avions besoin d'entendre et qui nous a remis debout. Votre témoignage, mes frères et sœurs, il est important. Parce que c'est pas vous qui allez guérir. C'est pas nous qui allons guérir, même le plus grand de tous les pasteurs, c'est pas lui qui va guérir. Il est tout simplement, comme Pierre, un intermédiaire dont Dieu va se servir et qui va permettre, bien finalement, de dégager des hommes qui sont prisonniers, qui sont là complètement lassés dans leur misère. Alors, les choses se sont passées de cette manière et il a eu besoin d'aide pour trouver des forces, l'effort nécessaire, l'effort pour passer l'impossible pour que cet impossible devienne possible. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est le surnaturel de Dieu. Et nos regards, je n'ai ni or ni argent. Parce que cet homme regardait les deux qui arrivaient, là, les deux disciples qui arrivaient, et il ne voyait que les hommes. Mais une chose qui est certaine, n'oubliez pas que dans le livre des Hébreux, il est dit à un moment donné, les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus, on ne le voit pas. Mais il est derrière toute chose. Même derrière un Pierre. La conclusion. Si Jésus frappe à notre porte, quand Jésus frappe à notre porte, cela signifie, peut-être chez beaucoup, même peut-être encore chez des chrétiens, qu'il est encore dehors dans notre misère, il est encore dehors même si nous sommes chrétiens, il est encore dehors de nos cœurs et parfois même de l'Église. Vous savez, les églises, hein, elles sont en mauvaise santé en ce moment. Hein. On ne parle plus de Jésus. Hein. On parle de tradition, on parle d'humanisme, on parle de sociabilité, enfin de social, et c'est ça ce que je veux dire. On parle de toutes sortes de choses, mais on ne parle plus de l'évangile de Jésus-Christ et la vie de l'esprit dans les églises. Eh bien, on est vraiment mal en point. Hein. Et nous avons besoin de conserver finalement eh bien, ce souffle de l'esprit au milieu de nous. Invitez Jésus à entrer. Vaut mieux être dedans qu'en dehors. Et vous savez, le temple, hein, c'est pas le temple de Jérusalem seulement. Vous savez, le temple, c'est nous. Ouais. Avec la conversion, avec la vie, eh bien, Dieu nous dit, tout simplement, nous déclare, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est formidable. Votre âme, votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Amen. Il faut passer la porte, tout simplement. Alors d'un pas, d'un saut, il fut debout, il entra dans le temple, marchant et louant Dieu. Ouvrez la porte et laissez-le entrer. On va prier d'ici quelques instants. On va prier parce que c'est quelque chose d'important. Retenons cette vérité libératrice. Où sont les miracles d'autrefois que nous lisons dans la parole de Dieu? Où ils sont? On les lit, on les compris, mais où ils sont dans nos églises du 21e siècle? Ouais. Où sont-ils? N'est-ce pas parce que Jésus est à votre porte seulement? La porte du cœur? Et il attend que vous ouvriez avec la clé de la foi. Parce que c'est ça la clé. C'est ça l'essentiel. On le disait tout à l'heure. Demandez à Dieu qu'il vous augmente la foi. Les disciples un jour sont passés de bon matin alors que Jésus priait sur la montagne et ils lui ont demandé une chose. Augmente-nous la foi, Seigneur. Donne-moi une plus grande foi. Donne-moi de m'appuyer sur tes promesses, une plus grande foi. J'entrerai, ça c'est la fin du texte, que je n'ai pas lu, mais je le lis ensemble. « J'entrerai chez lui, nous dit Jésus. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une belle harmonie d'ensemble que nous avons là expliquée. Une belle harmonie unie et réunie entre Jésus et nous. Symbole d'intimité, une image parfaite de complicité. Jésus marche avec nous, hein. Dans son temple de miséricorde et d'amour pour tous les souffrants. Mes frères et sœurs, ce matin, saisissez cette parole. Alors on a notre intelligence pour comprendre. On a la grâce de Dieu qui est là, on a sa présence. Ouvrez-lui la porte de votre cœur qu'il y ait quelque chose qui change. Et ça va se manifester d'une manière peut-être physique, matérielle, d'une manière ou d'une autre. La belle porte pour le mendiant infirme est devenue une réalité. Ce n'était pas celle qu'on disait qu'elle était appelée la belle porte, mais c'était la belle porte pour cet homme. Oui, la belle porte de sa vie, la belle porte où il a connu une intervention de Dieu à travers sa guérison surnaturelle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce ce matin, et nous allons prier quelques instants, si vous le voulez bien. Je voudrais simplement demander à ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je ne vais pas le faire par l'imposition des mains, parce que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, ce sont des formes. Hein? Commandement, bien sûr. Mais vous vous mettez debout ceux qui ont besoin que l'on prie pour eux pour une guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, psychologique, un renouvellement dans votre vie spirituelle, pour que vous puissiez avoir finalement eh bien, la force d'ouvrir cette porte et le Seigneur va vous toucher, il va vous bénir. Alors, mettez-vous simplement debout. C'est une façon de dire, c'est une façon de faire, il y en a des milliers probablement, mais peu importe, une chose qui est certaine, c'est que vous avez entendu ce message, alors c'est le moment d'ouvrir la porte et le Seigneur va vous bénir les uns et les autres. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es vivant, tu es fidèle et tu nous as donné le trésor des trésors, tu as parlé aux hommes malheureux. Et dans l'Évangile, combien de récits, combien de pages sont véritablement, Père éternel, remplis de toutes sortes d'extraordinaires. Des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des gens dont la vie était complètement anéantie, eh bien tu leur as donné un nouveau souffle. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs ici. Je te prie pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont peut-être restés dans leur maison parce qu'ils n'ont plus la force, Seigneur, de venir. Alors Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te remercier et te bénir, et nous voulons véritablement maintenant aller en direct, en croyant que, Seigneur, nous t'avons déjà prié, prié souvent, prié avec ferveur, prié avec persévérance, mais aujourd'hui, Seigneur, nous ouvrons la porte, et non seulement, eh bien, il y a la prière, mais il y a d'abord, au préalable, les remerciements pour ce que tu vas faire. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour la guérison, nous te bénissons pour la délivrance, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as nourri notre âme ce matin. Tu nous as bénis, Seigneur, au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Révèle-toi, manifeste-toi et nous voulons appuyer, Seigneur, cette délivrance par cette parole où tu nous dis, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Merci, Seigneur, au nom de Jésus et je reçois ta grâce ce matin. Merci, mon Dieu. Amen.
Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que cette parole de Jésus ait pu vous faire beaucoup de bien.